En juin 2023, dans le cadre d'une mission sur le Salon Solscope au Parc des Expositions de Lyon, salon bisannuel dédié à la géotechnique, au forage et aux fondations, j'ai eu le plaisir d'y rencontrer le Bureau de Recherche Géologique et Minière, alias le BRGM. Effort des dérèglements climatiques, j'ai pris le temps d'interviewer Sébastien Jaffreau, expert des risques naturels, pour savoir comment vont évoluer les sous-sols de notre pays.
Bonjour, alors Sébastien Jaffreau, je suis le directeur adjoint de la direction risques et prévention, BRGM. Alors, plus spécifiquement, c'est une direction qui s'occupe de tout ce qui concerne les risques naturels.
Le BRGM signifie Bureau des Recherches Géologiques et Minières, mais peut-être qu'aujourd'hui, il a un spectre plus large d'activités.
Oui, alors bien sûr, maintenant, le BRGM est quand même plus une marque autre chose aujourd'hui. Il y a toujours toute la partie minière, bien entendu, qui est toujours traitée au niveau surtout de la prémine au niveau du BRGM. Mais on a aussi toute une activité, comme j'expliquais tout à l'heure, sur les risques naturels, entre autres, qui va aussi sur les sites et sols pollués, sur tout ce que l'on peut faire au niveau des nappes aussi, qui sont des sujets quand même d'actualité aujourd'hui, mais aussi tous les usages du sous-sol, qui sont des parties intégrantes de ce que l'on fait dans tout le BRGM aujourd'hui.
Grande question d'actualité par rapport aux enjeux climatiques. Vous avez évoqué les nappes phréatiques, mais par rapport aux enjeux climatiques d'une façon générale, quelles sont les préoccupations majeures que traite le BRGM aujourd'hui ?
Alors, il y a différentes manières de voir les choses. La première, déjà, on va s'intéresser d'abord à parler du sous-sol en tant que tel, au niveau de toutes les répercussions, dans tout ce qui peut concerner les risques naturels au niveau des cavités souterraines, qui, du fait de l'évolution des phénomènes, en fait, fait qu'aujourd'hui, on a par les forçages en fait, météorologiques qui peuvent arriver, etc., on va avoir de plus en plus en fait, d'événements extrêmes qui vont engendrer des cavités souterraines, et puis au du moins des remises à jour en fait, d'ouvrages existants qui étaient des ouvrages anciens, en fait, qui font des bouchons qui remontent au jour. Et puis après, il y a aussi toute une activité qui concerne aussi l'énergie en tant que telle, qui est là, qui n'est pas directement lié, mais c'est indirectement lié. C'est tout ce qui peut considérer les usages du sous-sol futur qui pourraient être utilisés justement pour aider justement dans limiter les effets de serre au niveau de la planète. C'est-à-dire les stockages, des stockages possibles, hein, il n'y a rien d'entériné à ce jour, mais peut-être des réflexions qui pourraient être posées sur trouver des solutions en fait, pour aider la planète justement à mieux supporter cette quantité de CO2 que l'on rejette tout le temps dans l'atmosphère.
Alors parmi les préoccupations dont on entend régulièrement parler, il y a l'érosion des côtes maritimes, il y a l'assèchement des zones argileuses qui fait que certaines maisons sont fissurées. Comment est-ce que vous traitez toutes ces questions ?
Alors, je vais commencer d'abord pour tout ce qui concerne les maisons fissurées, qui veut dire en fait chez nous les retraits, le gonflement des argiles. Donc il faut bien comprendre en fait que ce n'est pas que la sécheresse qui cause problème, c'est la variation entre des périodes de sécheresse et des périodes très humides en fait, qui génèrent des mouvements du sol et qui font que l'habitation ne reposeront pas sur des formations de manière continue, fait qu'à un moment, il y a un déséquilibre en fait, de pression qui va générer des fissures dans la maison. Pour expliquer rapidement, techniquement, les choses. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles la loi Elan en fait, a contribué depuis quelque temps à identifier en fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire en termes de mesures sur les nouveaux bâtiments construits. Par contre, on est toujours à essayer d'apporter, et on le fait parce qu'il y a plusieurs solutions techniques qui sont proposées aujourd'hui pour améliorer en fait, la situation sur les bâtiments existants, hein, pour savoir quelles seront les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre. Par contre, il faut toujours avoir à l'esprit que ces solutions-là existent déjà depuis 20 ans. En fait, hein, c'est simplement qu'on a souvent oublié de les mettre en œuvre, on n'a pas pu les mettre en œuvre pour des raisons économiques à certains moments, et on a oublié par moment en fait, c'est pourquoi on l'avait fait. Donc, c'est-à-dire que voilà, on est simplement en train de rappeler les bonnes règles, les bonnes pratiques de construction qui vont permettre de limiter ces phénomènes à terme. Voilà. Pour répondre à l'autre question aussi qui était sur le littoral, hein. Pour revenir sur le littoral, c'est encore un autre sujet, c'est totalement différent. Là, c'est un sujet qui vise directement vraiment à s'intéresser à l'évolution du niveau de la mer, donc qui va contribuer justement à venir limiter en fait la bande côtière, en fait, à la faire reculer. Voilà, donc même si c'est un peu plus complexe que ça, on peut avoir des zones d'accrétion, comme on dit, où on va avoir des sables qui vont se déposer et d'autres zones où on va justement perdre de la terre et rentrer à terre. Mais avec les scénarios que l'on a aujourd'hui, même sur des très longues périodes, et je pense qu'il faut raisonner sur des très longues périodes parce qu'on ferait une erreur de raisonner sur un temps court, sinon on n'aura absolument aucun pouvoir, on ne pourrait rien changer. Là, on aura de toute façon un recul. De toute façon, c'est quelque chose qui est entériné aujourd'hui, on aura un recul. Donc ça veut dire qu'il va falloir l'intégrer dans nos politiques publiques, il va falloir l'intégrer dans les solutions d'aménagement, et là, il va falloir s'adapter. Alors s'adapter ne veut pas dire renoncer hein, totalement, hein, veut dire de bien réfléchir à ce que l'on renonce. Est-ce que y a des choses qu'on veut garder ? Donc, ça veut dire que ça va être un raisonnement complet. Et là, l'appui du BRGM sert à modéliser en fait, des choses, à modéliser les zones de submersion potentielles qui pourraient advenir, de modéliser aussi par rapport à l'évolution de la mer jusqu'où va arriver le trait de côte, et comme ça, de mettre en place des politiques publiques qui soient en adéquation justement avec la réalité future, donc faire de la prévention.
Est-ce que nos élus, les députés en première ligne, sont conscients de tous ces enjeux aujourd'hui ?
Oui. Oui, je pense qu'il y a une évolution très importante depuis quelques années sur le sujet. Bon, je pense que ce n'est pas d'aujourd'hui, je pense que les politiques publiques s'en rendent compte et le savent. Sauf que concrètement, si on veut parler de concret, parce que souvent c'est là-dessus que les politiques publiques sont attaquées, on est en train d'assister aujourd'hui, je pense, à quelque chose qui va mettre en place des éléments sur le plus long terme. C'est-à-dire qu'il était difficile à une époque d'avoir des politiques qui s'intéressent à 25 ans, quand chacun de nos élus sont élus sur 5 ans. Donc la réalité, en fait, c'est qu'on est en train aujourd'hui de faire comprendre qu'on ne peut pas positionner justement une réflexion sur le long terme si on reste sur cette base-là. Donc alors ça, c'est ça qui est en train de changer, globalement.
Oui, vous savez comme moi que les élus, leur long terme, c'est les 5 années, c'est la prochaine élection.
Oui, exactement. C'est pour ça qu'on essaie de passer l'élu, enfin passer l'élu, c'est entre guillemets, c'est-à-dire d'associer l'élu à cette réflexion, surtout à la réflexion de ses enfants. Hein, parce qu'en fait, l'élu, il a quand même des enfants souvent. Hein. Enfin, après tout, on n'a pas forcément des enfants, mais on va dire que majoritairement, les gens ont quand même des enfants et donc doivent quand même avoir dans cette réflexion le temps long. Sur les choix de demain et sur les choix d'aménagement qu'on vous expliquait tout à l'heure, si on reste vraiment dans cette logique-là, on ne fera jamais rien. C'est-à-dire que le jour où il y aura vraiment un problème, et si elle ne sera plus dans la gestion, on ne sera plus dans la gestion du risque, on sera dans la gestion de crise. Et quand on est à un stade de gestion de crise, comme ça arrive souvent aujourd'hui, comme on le voit dans la plupart des informations qu'on peut avoir, en fait, cette gestion de crise, en fait, ça veut dire qu'on n'a pas su réfléchir sur un temps long. Ça veut dire qu'on n'a pas eu, soit pas eu les moyens, soit pas avoir encore suffisamment de recul pour le faire. Aujourd'hui, on a du recul. Les moyens, c'est comme tout le monde, on va mettre ce que l'on va pouvoir mettre en place avec les moyens qui sont disponibles. Mais ça veut dire qu'on ne peut plus dire aujourd'hui « je ne sais pas ». On ne peut pas dire aujourd'hui « je ne peux pas non plus réfléchir sur un temps long ». Ça ne serait pas acceptable, puisque ça veut dire que dans 25 ans, on aura des populations entières qui ne vont pas comprendre pourquoi on n'aura pas pris des bonnes décisions. Par contre, il y aura des décisions qui vont devoir impacter forcément la population. Et là, on est plutôt dans un choix de faire participer la population, justement, a différents choix. On essaie d'associer le plus possible, c'est un peu ce qu'on essaie de faire au BRGM, même si on n'est pas des socio-économistes, mais on essaie d'apporter, justement, de faire le maximum, de donner le maximum d'informations, de compréhension, pour qu'après les gens puissent s'intégrer, avoir une bonne perception de ce qui va être mis en place, et de pouvoir éviter d'avoir une opposition de principe, parce qu'on a tous dans la vie, pour différents sujets, selon nos connaissances, des opérations de principe, mais essayer d'arrêter les oppositions de principe, mais plutôt de dire que toute solution, tant qu'on ne l'a pas totalement intégrée et comprise, on ne peut avoir difficilement un jugement dessus. Donc le but, c'est de donner le maximum d'informations et d'éviter de prendre les gens pour des gens qui ne comprennent pas, mais des gens qui peuvent comprendre.
J'ai eu l'occasion de parcourir très rapidement les revues que vous publiez, qui sont extrêmement bien documentées, scientifiques, comme le veut les origines du BRGM. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir démocratiser, sensibiliser, en dehors de ce podcast que j'enregistre avec vous, comment vous faites pour pouvoir sensibiliser un large public à toutes ces questions qui sont fort complexes?
C'est vraiment la question, c'est des choses sur lesquelles on essaie de... Alors on a la communication chez nous, BRGM, qui se fait depuis beaucoup d'années, qui est institutionnelle, qui est scientifique, qui est ouverte aussi quand on peut le faire. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de mettre un peu en place, c'est qu'on essaie de plus en plus de produire des guides méthodologiques. Alors ça ne parle pas forcément à un public non initié, mais au moins ça sert à faire des choses pour un public non initié. Et dans le deuxième cas, le fait de pouvoir avoir un discours beaucoup moins technique et beaucoup plus facile à appréhender, ça, on utilise beaucoup dans nos projets aujourd'hui, des réunions publiques. On essaie beaucoup d'associer, comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus large public possible quand il y a une réflexion qui est posée sur l'utilisation du sous-sol, sous taupe technique ou même sur le littoral. Donc ça, c'est des choses qu'on va intégrer même au niveau de la recherche. C'est demandé au niveau de l'Europe, il faut que les gens le sachent bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tous les projets européens de recherche, même si ça paraît loin des perceptions des gens, les problèmes, les problématiques de recherche, on doit associer tout de suite un regard très socio-économique et humain, en fait, sur ce que l'on fait. Et même sur les retombées pratico-pratique de ce qu'on est en train de faire au niveau recherche. Donc c'est quand même des éléments qui changent beaucoup au niveau... On dit souvent que l'Europe n'apporte pas forcément grand-chose quand les gens parlent en règle générale. Là, si, on a vraiment un regard maintenant qui est porté sur à quoi sert la recherche et pour qui.
Votre domaine est ni plus ni moins concerné par tous les enjeux de la RSE, responsabilité sociétale et environnementale.
Oui, alors tous, oui, une bonne partie, directement ou indirectement.
Est-ce que les CAUE, Centres d'architecture et d'urbanisme, présents dans chaque département, peuvent être pour vous un des moyens d'évangélisation d'un large public?
Alors, peut-être, mais il y a plein d'autres systèmes qui se mettent en place aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait peut-être plutôt essayer de conduire... Est-ce que c'est intéressant de multiplier les possibilités? Ou est-ce que c'est intéressant de toutes les garder dans un même portail d'accès pour que tout le monde ait vraiment la même définition? Ça, après, c'est pas à moi de répondre à la question, mais globalement, je pense que c'est une vraie question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sources d'informations dans beaucoup de sujets. C'est plutôt bien, parce que ça donne de l'information, mais ça a un effet un peu qui peut être un peu pervers à un moment donné, c'est qu'à donner trop d'informations multiples qui vont forcément, à un moment donné, pas forcément être cohérentes entre elles, c'est toujours le risque, on risque de perdre un petit peu dans la réflexion l'ensemble des personnes. Sans dire qu'il y a une doctrine et tout le monde s'y range. L'important, c'est d'avoir au moins une perception qui ne soit pas trop multiple non plus, parce qu'à force qu'elle soit multiple, elle finit par être confondue.
Mais comme toute source d'information scientifique qu'est la vôtre, c'est cartésien et logique, donc argumenté. Ça peut être une source d'information à laquelle font référence toutes les personnes ou toutes les entités qui peuvent éventuellement évangéliser pour sensibiliser un large public sur ces questions du sol et du sous-sol.
C'est le principe même de la recherche. Hein. Quand on fait un état de l'art, ça s'appelle un état de l'art, on doit justement, de manière très scientifique et technique, vérifier l'ensemble des informations que l'on amène et qu'elles soient prouvées et démontrées. Ça veut dire que dans la logique d'une information, très peu d'informations sont dans ce cadre-là. Si vraiment on voudrait aller, si on veut rester dans une perception très scientifique des choses, et pas dans un nuage complet d'informations multiples et variées, on recenserait que très peu d'informations, in fine. Ça veut dire que quand on reste dans un cadre vraiment démontré et certain, on se rend compte que l'information n'est pas si importante que ça.
En tous les cas, personnellement, je conseille à tous ceux qui s'intéressent à ces questions, qui ont la curiosité de vouloir se documenter, d'aller sur le site du BRGM, sur lequel il y a un très grand nombre d'informations sous toutes ces formes.
De bases de données qui sont importantes, qui sont intéressantes pour pas mal de gens. Puis on a un site qui s'appelle on participe au site Géorisk, que les gens connaissent pour d'autres biens quand ils font appel au Géoportail ou qu'ils passent par d'autres portails d'information, où là vous avez tout le recensement des risques qui peuvent arriver sur un territoire. Bon, chacun les connaît, hein, souvent quand ils vont voir leur notaire, quand ils soient pour un bien immobilier ou autre, on a justement ces éléments-là qui sont ramenés et le BRGM y contribue fortement.
Merci beaucoup Sébastien.
Merci, au revoir.
Si comme moi vous avez apprécié ce podcast Génie soit-il, n'hésitez pas à lui mettre quelques étoiles et votre commentaire sur Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Et pour que le génie du BRGM alimente la matière grise d'un large public, merci de partager cet épisode sur votre réseau social favori, à commencer par le bouche à oreille. Salut !